plateau. Ça parlote, ça ragote, ça balance grave, ça bavasse. Ça raconte, ça babille, ça se la raconte, ça passe sa langue dans sa poche.
Ça barre la veine.
Ça jacasse,
ouh yeah.
Ça jacasse,
ouh yeah.
Ça piaille, ça blabla,
ça clamique,
ça ouvre son bec,
ça pète carmel,
ça rigole,
ouh yeah.
Ça va remplir le crachoir,
ça barre Jacques,
ça débague,
ça déconne.
Ça jacasse,
ça crie,
ça jacasse,
ça jacasse,
ouh yeah,
ça jacasse,
ouh yeah.
Et surtout, ça jacasse de tout sur tout.
de Joe, Sajakas, atelier sur la répression avec Le Cassis et Marin Fouquet.
Alors bonjour et bienvenue sur Radio Tilleul. On accueille aujourd'hui deux membres du Cassis, qui est un collectif d'autodéfense et de solidarité en soutien aux inculpés stéphanois et stéphanoises, et Marin Fouquet, écrivain, qui nous vient de Seine-Saint-Denis et avec qui on va parler de son roman intitulé GAV. Cette émission fait suite à plusieurs ateliers avec des jeunes qui ont écrit et raconté des histoires personnelles de répression. Ils et elles sont là avec nous et ont préparé cette interview. Je leur laisse la parole.
Alors là, on va faire l'interview de Marin Fouquet, donc bonjour. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre livre GAV ?
Alors, je m'appelle Marin Fouquet, je suis romancier, c'est mon deuxième roman. J'ai écrit un premier roman qui s'appelle 7-7, qui se passe dans le 77 en Seine-et-Marne, là d'où je viens à la base, sur un jeune type dans un abribus sous une capuche, qui passe sa journée à fumer des joints. Et il va parler au fur et à mesure de son village, des rapports qu'il y a dans son village et de son rapport à la virilité. Et là, le deuxième roman, donc, c'est GAV, qui est sorti cette année. Et ça se passe donc pendant une nuit, en garde à vue, dans un commissariat. Il y a huit voix qui s'élèvent au fur et à mesure. Et on va comprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce que chacun se retrouve à un moment donné dans ces cellules.
Et pourquoi vous avez fait le choix d'écrire autant de personnages et de vies qui se croisent ?
Parce que pour moi, c'était important. C'était comme un travail d'honnêteté. C'est-à-dire qu'il fallait que j'arrive à déployer une fresque assez grande pour pouvoir retracer tous les rapports de violence, tous les rapports d'oppression, parce qu'elles sont toutes et tous, tous les rapports d'oppression sont intrinsèquement liés. Donc ne parler que d'une, c'est-à-dire ne parler que des violences policières, ça aurait pu être quelque chose, mais ça m'intéressait plus de brosser le plus large possible pour montrer à la fois que dans un commissariat où on est censé être sur un pied d'égalité, c'est-à-dire on est sur une zone de non-droit pour tout le monde, donc dans l'idée zéro droit pour tout le monde, on est sur, dans une société totalement inégalitaire comme la nôtre, on est enfin sur l'égalité par le néant, et en réalité reste des privilèges. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on risque pas la même chose. Qu'on soit hétéro ou qu'on soit homo, on risque pas la même chose. Personne racisée ou blanche, pas la même chose. Et pareil, classe bourgeoise ou classe plus prolétaire ou modeste, pas la même chose non plus.
Alors, comment vous vous êtes documenté pour écrire ces personnages et elle était construite à partir de personnages existants, de témoignages ?
Alors, à chaque fois, quand j'écris, j'essaie de partir de choses que je connais, que j'ai vécues, que j'ai ressenties, ou alors que des proches ont vécu ou ressenti. Et au fur et à mesure, de m'éloigner par la fiction et de pouvoir, au fur et à mesure, brosser plus large que déjà moi-même mon propre vécu, qui est conditionné par ce que je suis dans la société et dans ma manière de penser. Et c'est un petit peu de faire sauter les préjugés, les clichés que moi-même j'ai et qu'on peut avoir. Le premier personnage que j'ai écrit, c'était le personnage de Cavambre, qui est une jeune manutentionnaire dans un entrepôt. Et en fait, je l'ai écrit au moment où je travaillais moi-même dans un entrepôt. Avant que mon premier roman sorte, j'étais manutentionnaire. Et je voulais au début écrire ce rapport-là, le rapport de l'entrepôt, le rapport au travail, qui n'était pas drôle du tout. Et j'ai voulu écrire ça, c'est le premier personnage. Puis ensuite, pour compléter cette fresque, j'ai été vers d'autres, certains qui sont très proches de moi ou de ce que j'ai vécu. Et d'autres très loin, il y a un personnage qui est le personnage du flic, où là j'ai dû faire beaucoup de recherches. Parce que, en fait, de la même manière que plein de personnes ont des préjugés sur certaines classes sociales, moi j'avais énormément de préjugés sur les flics. Et donc j'ai dû, encore comme travail d'honnêteté, aller un peu creuser, essayer de comprendre ce qui pouvait pousser à vouloir faire ce métier. Me rendre compte que sur les le compte exact je ne l'ai pas, mais la dernière fois que j'ai compté c'était depuis les années 70, il y a 747 personnes qui ont été tuées en France par la police. Donc ça c'est une chose, mais de l'autre côté il y a un nombre qui n'a jamais été, je ne sais pas s'il n'a pas été compté ou s'il n'est pas tout simplement divulgué par les syndicats de police, mais de flics qui se suicident avec leur arme de service, donc qui signifie à un moment donné un acte par rapport à leur profession. Et donc voilà, essayer au fur et à mesure de considérer les personnes tuées par la police et les flics qui se tuent eux-mêmes comme les deux faces d'une même pièce. Et essayer de pouvoir brosser, pouvoir montrer un truc un petit peu plus large que juste soit une haine anti-flic, soit une glorification de la police. Essayer de brosser le tout.
Vous vivez dans le 93. Est-ce que des liens peuvent être faits entre des territoires spécifiques et la présence de mécanismes de répression? Avez-vous été témoin ou victime de ces répressions justement?
Déjà, la répression, elle se fait partout. Elle se fait partout, se fait quelles que soient les... Si on sort de l'idée de la répression policière, elle se fait partout, quelle que soit la classe sociale. Je ne la connais pas, mais j'imagine que dans les classes, même bourgeoises, il y a des formes de répression. Ça ne m'étonnerait pas. Je pense qu'on est dans une société dont l'essence, c'est la répression et qui fonctionne à ça. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que dans les classes bourgeoises, ils n'auraient pas. Malheureusement, je ne connais pas leur mécanisme, donc je ne pouvais pas en parler. Je n'étais pas la personne légitime pour en parler. Par rapport au 93, c'est une réalité. Les forces policières sont essentiellement déployées en France, en Ile-de-France. L'essentiel est en Ile-de-France et en Ile-de-France dans le 93. C'est l'endroit où il y a le plus de flics. À ça s'ajoute le fait que c'est l'endroit où il y a le plus de flics jeunes. C'est-à-dire que les vieux flics, ils demandent à être mutés ailleurs. Donc on se retrouve avec des équipes d'intervention où il y a un vieux pour 10 jeunes. Donc en termes d'encadrement, on est sur un réel problème. Et ce qui ensuite, je pense, participe, c'est pas le seul élément, mais participe aux violences qui en découlent derrière.
En tant que mec blanc, comment vous arrivez à pouvoir écrire quelque chose qui se rapproche quand même beaucoup de la réalité pour des personnes racisées ou des femmes?
Ça, c'est une vraie question que je me pose à chaque fois. Et en faisant très attention, en me fliquant moi-même, c'est-à-dire en essayant de cerner au fur et à mesure que j'écris et que je corrige, de qu'est-ce qui appartient du cliché, de clichés qui viennent de moi, qu'est-ce qui est une construction uniquement de pensée, de représentation. Aussi, bien sûr, en discutant avec mes proches et en ouvrant les yeux et les oreilles, tout simplement. Mais surtout en faisant extrêmement attention.
Pouvez-vous nous lire un extrait de votre livre qui vous paraît assez représentatif de ce que vous avez voulu travailler avec ce livre?
Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Mais pour continuer sur votre question, qui me paraît... Je vais trouver la page entre-temps, je vais essayer de diviser mon cerveau et de réfléchir aux deux. C'est une vraie question parce que, pour moi, elle s'est posée après 7-7, où 7-7, je parle d'un jeune homme et de son rapport à la virilité. Et là, j'étais dans une zone de légitimité pour moi. Et après, je me suis dit, mais ça veut dire que tu vas que écrire des histoires d'hommes blancs. Il n'y aura que des hommes blancs dans tes livres, dans tes histoires. Et ça m'a paru à la fois assez triste et assez obscène, en fait, de juste écrire des... Enfin, c'est ce qui a été fait essentiellement. Dans la littérature, dans les films, dans tout ça. Donc, se poser vraiment la question, quoi. Et donc, c'est un vrai truc. Et j'ai pas la réponse. J'ai pas une réponse qui soit juste. J'ai peut-être juste des excuses intellectuelles que je me donne pour pouvoir écrire, peut-être.
Mais est-ce que c'était départ, il y a une forme d'envie d'apprendre à se déconstruire, à essayer de chercher autre chose que ce qu'on nous apprend dès qu'on est, si on est un homme blanc. Et du coup, faire une recherche derrière, c'était vraiment vous qui avez souhaité faire ça, ou c'est en se disant, je vais écrire un livre qui ne va pas parler que de moi ou d'expériences que j'ai vécues, donc je vais pouvoir agrandir mon champ de recherche.
Les deux, parce que déjà, on est beaucoup dans une mode dans la littérature aujourd'hui de parler de soi. C'est des écrivains qui vont parler de leur vie, et là où ça peut trouver ses limites, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a écrit un livre sur soi, on va écrire un livre sur sa mère, et puis ensuite sur sa sœur, et puis ensuite sur son père, et puis ensuite sur ses cousins, et se pose la question du pillage, c'est-à-dire que tu vas d'un seul coup donner à lire à des gens la vie de personnes qui n'avaient pas forcément envie à la base qu'on connaisse leur vie. Donc ça, déjà, ça pose une vraie question. Et en plus de ça, il y a la volonté, oui, d'essayer d'écrire des histoires qui ne soient pas, uniquement centrées sur un seul point de vue, un point de vue qui est toujours le même et qui, moi, personnellement, a constitué mon rapport aux autres, mon rapport à moi. Enfin, c'est tout bête, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Je sais pas, le Star Wars, le premier baiser de Star Wars, c'est il la force à l'embrasser et elle kiffe ça, et c'est sa sœur. Donc voilà. Et ça, c'est que des histoires en fait qui à un moment donné rentrent dans la tête quand on est ado et même quand on est adulte, et qui vont fonder un rapport à l'autre et peut-être essayer à sa mesure d'écrire d'autres types de rapports possibles. Alors. Un extrait qui, qu'est-ce que je pourrais raconter ? Un extrait qui... Bon, bah, on va commencer à la première page. Je pense que c'est un extrait qui... Clé de bras. Une grosse main gantée se pose sur l'épaule gauche, tandis qu'une autre saisit le poignet droit. Remonte dans le dos, le long de la colonne, à l'endroit exact où les jointures craquent. Lève. Tire, tord, plaque. Au moindre mouvement, déboîte. Déboulé de nulle part, lunettes de soleil, rictus soleil, un type derrière vous, cœur d'après-midi, rue passante. Exhorte, expire, braque. Direct, il prend la seconde main et réunit le tout en un bouquet de 20 doigts, 2 paumes. Menotte, inspire, cardiaque. Serrant fort, appuyant de tout son poids sur votre nuque, il vous pousse d'un grand coup pour que ça avance. Tête dans le sac. Vite rejoint par un escadron de crânes rasés, tous habillés civils, habillés sportwear, habillés survêt, sacoche et basket, habillés racailles, habillés sans matricule, habillés pour la course et le camouflage, il vous jette à l'arrière du fourgon. Pince au poignet, fracas des portes qui se referment. Chaque entrave creuse la chair. C'était hier, le rouge au corps. Maintenant, vous êtes là, dans le couloir gris de ce commissariat, la tête contre le carrelage froid. Pourtant, on vous l'a bien dit, bien martelé et répété, tu n'as rien à déclarer. C'est le type dans la cellule qui vous l'a conseillé pendant la nuit, avec les bruits de pain en écho et la banquette en dur aux odeurs de vomi, de sang et d'urine. L'humanité en package. Tu n'as rien à déclarer. Quand ils t'emmèneront dans le bureau, surtout, tu n'as rien à déclarer. On vous l'a bien dit et répété. Alors au matin, quand ils viennent vous chercher dans la cage, le ventre vide parce qu'arrivé la veille, juste après le dernier passage, service du soir, les trois mots vous tournent dans la tête. Rien n'a déclaré. Puis viennent les couloirs, les claquements de porte, la chaleur soudaine, la sueur au cou, les échos peut-être, et les trois mots qui tournaient en boucle dans votre crâne lentement s'humidifient, se diluent, deviennent bouillies, voyelles, consonnes, râle incertain, langue qui s'oublie. Merci à vous.
Ok. Jolie éloquence, et justement une question un peu par rapport à ça, enfin indirectement, mais quel lien est-ce que vous faites entre votre travail de rappeur et votre travail d'écrivain ? Est-ce qu'il y a du lien ou des différences entre du coup être rappeur et écrivain ?
Alors moi j'ai commencé vraiment l'écriture avec le rap. Maintenant aujourd'hui du rap j'en écris uniquement pour moi, ou lorsque je fais des performances je mets toujours des parties rappées dedans. On a beaucoup aimé me présenter comme rappeur et auteur, parce que ça fait toujours bien. C'est quelque chose aussi qui justifie des subventions, c'est-à-dire c'est génial, il est auteur, mais il est à la fois rappeur, donc ça va intéresser les jeunes. C'est aussi quelque chose qui fait bien sur un plateau de télé, parce que ouais, pareil, on fait croire à une sorte de diversité, alors que je suis juste un homme blanc qui écrit des romans, et donc on a une illusion quoi, de diversité. Moi, le rap, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'écoute tous les jours, mais j'en écris maintenant que pour moi. À un moment donné, j'ai rêvé d'être rappeur. Après, quand j'étais adolescent, il y avait des rappeurs blancs qui venaient du 77, donc c'est plus la campagne qu'autre chose. Il n'y en avait pas. Et pour moi aussi, déjà, ça posait un premier problème de légitimité. On n'avait qu'un seul truc, c'était Kamini. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Kamini, c'est un type qui a fait une... Il a fait des albums d'ailleurs, mais c'est plus de la blague, quoi. Il est sur un truc d'humour, et donc c'était le seul rappeur campagnard, quoi. Donc pour moi, il y avait ce truc-là, rappeur, c'était impossible. Puis après, ça s'est débloqué. Maintenant, il y a même des petits bourgeois qui font du rap, et ça pose pas de problème.
On pense à Aurel San, d'ailleurs.
Ouais, Aurel San, mais ils sont pleins, L'Homme Pâle, tous ces trucs-là qui sont, moi, je trouve, les trucs les moins intéressants dans ce qui se fait, mais ils rassurent le journaliste. Il rassure le programmateur, et voilà. C'est pour ça que je pense qu'essentiellement ça marche. Mais dans le travail, pour moi, comme c'est ce que j'ai commencé à écrire par le rap, ça a conditionné en fait mon rapport à l'écriture. Et donc pour moi, une phrase, elle est bonne quand elle sonne. Et c'est pour ça que tout le temps, pour moi, ce qui est important, c'est le rythme. C'est qu'il y ait les peu, les que, les te, les re, enfin qu'il y a une musique qui se crée au fur et à mesure. Et donc pour moi, il est là, il est vraiment le lien, il est formel, quoi. C'est dans la forme.
Ok. Et c'était quel genre de style de rap que vous écriviez ?
Du rap très, très énervé, très en colère. Okay. Je gueulais beaucoup. Par chance, je crois que le peu de choses qu'il y avait avant sur Internet s'est perdu au milieu de plein d'autres choses. Parce que les textes étaient certainement, je ne me souviens pas de tous, c'est certainement pas tous très bons. Mais ouais, très énervé, très en colère et très dans un rapport assez viril au truc. Même si les textes se voulaient engager, la forme restait une forme extrêmement problématique.
Artistiques ou politiques qui vous ont influencé pour écrire ce roman, et comment vous vous situez par rapport à ces références-là ?
Références artistiques ou politiques. Y a des romans bien sûr qui m'ont marqué, il y a des auteurs, des autrices qui m'ont marqué, il y a Virginie Despentes m'a marqué, Toni Morrison m'a marqué. C'est des choses, bien sûr, que j'ai forcément à l'esprit quand j'écris. Coltès aussi, Camus, enfin voilà, je l'ai forcément. Quelque part, ça doit être quelque part là. Après, j'essaie de m'en débarrasser au moment d'écrire, parce que sinon, c'est des poids qui sont impossibles à porter. Enfin, si on a au-dessus de son épaule Toni Morrison qui est sur une épaule, Virginie Despentes de l'autre, Camus au-dessus de la tête... C'est impossible d'écrire, je crois. Après, bien sûr qu'il y a plein d'artistes, même il y a des films qui m'ont marqué. Le réalisateur Paul Thomas Anderson, pour moi, ça a été un... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films à lui. Je crois qu'il en a sorti un dernièrement que je n'ai pas encore vu. Il s'appelle... Je sais plus le nom, mais il a sorti There Will Be Blood, il y a longtemps. Un film de ouf. Enfin bref, il y a des réalisateurs, bien sûr, il y a plein de trucs puis bien sûr des rappeurs, des rappeuses. Kazay, ça a été le truc le plus... qui est peut-être le truc qui a le plus irrigué GAV, je pense. C'est les textes de Kazay, et aussi plein d'autres choses. Après, politique, il y a des personnages dans le bouquin qui sont des anarcho-autonomes. C'est la partie qui a été... la plus simple à écrire pour moi, parce que c'est celle qui était la plus proche de moi à un moment donné. Et c'est une des parties la plus... Ça fait partie des parties les plus critiques vis-à-vis des personnages. Parce que c'est une... En vrai, même si j'y ai mis beaucoup de choses qui me sont propres et des choses parfois tendres, c'est une belle bande de virilistes en puissance, en fait. Parce que je crois fondamentalement, et ça c'est uniquement lié à mon expérience, et peut-être pourrait être discuté, mais je crois que pour beaucoup de personnes de ce milieu-là, je parle d'hommes, c'est une bravade. Le rapport à la police, c'est une bravade. C'est quasiment un rite initiatique de virilité. Le flic, c'est papa sur lequel on aura de taper dessus. C'est Macron qu'on a en chair et en os, c'est le rapport au pouvoir. Et ils risquent rien. Ils risquent rien. Pour la plupart, enfin, de moi, ceux que je connais et que j'ai pu fréquenter, des hommes blancs, hétéros, de milieux sociaux plutôt aisés, voire même bourgeois. Et on est dans un rapport uniquement de bravade. Quand on regarde sur les 747 personnes tuées par la police depuis les années 70, il doit y en avoir moins de 10 qui sont des hommes blancs. C'est-à-dire que le risque n'est pas le même. Le risque n'est pas le même. Quand on rentre ensuite chez soi, il y a un chez soi très calme qui attend. Et la révolte et la révolution est un luxe. Et donc voilà, moi c'était aussi ça que je voulais creuser dans ce truc-là. C'est-à-dire que c'était à la fois nécessaire, je crois, de faire un livre qui traçait beaucoup de choses. Hein. Les violences au travail, les violences dans la sphère intime, dans le couple, plein de violences différentes. Et plein de types de violences, et aussi la violence policière, mais aussi qui montrait que dans certains milieux activistes, moi, il y a des phrases que j'ai pu entendre, par exemple, enfin la seule fois où j'ai fait une garde à vue, quand j'ai eu au téléphone un de ces membres-là, il m'a dit, juste avant en fait, de rendre le téléphone, il m'a dit, je me rappellerai toujours, tu vas voir, ça va être difficile, mais après avec les filles, ça va bien mieux marcher. Et pour moi, ça résume la mentalité qui peut y avoir et qui a un rapport uniquement de virilité. Et ça pourrait être donc la manifestation, mais ça pourrait être n'importe quoi. C'est juste un rite initiatique. Et pour terminer là-dessus, par exemple, je ne sais pas si vous avez pu entendre ça, parce que j'ai l'impression que vous êtes plus ou moins dans des milieux militants. Mais par exemple, lorsqu'une personne racisée ou une femme va d'un seul coup dire « là, ce que tu viens de dire, c'est sexiste » ou « là, ce que tu viens de dire, c'est raciste », très vite, ça va être passé sous silence. Et il y a cet argument massue, cet argument choc qui peut y avoir dans certains milieux d'extrême-gauche de dire « tu divises la lutte ». Non mais on arrête de parler de ce truc-là, de ton truc de genre, de ton truc de machin, de ton truc de bidule. Là, en fait, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est le grand capital, quel que soit l'argument qu'on... Enfin, le truc qu'on met en face. Et on est en fait dans une reproduction à échelle de micro-communautés et de communautés de pensée. On a une reproduction exactement des schémas d'oppression qui se passent dans ce qui est censé être combattu. Donc voilà.
Et du coup, pourquoi avoir écrit ce livre et considérez-vous l'écriture comme un moyen de lutte ?
Je crois que l'écriture, et quel que soit... Je ne sais pas pour les autres métiers, je ne peux que parler du mien, mais je crois que... Enfin, en tout cas, écrire, c'est politique, quoi qu'il arrive. Même si on écrit un livre de développement personnel, ça reste un type de propagande. C'est une propagande macroniste de dire c'est par toi-même que les choses vont arriver, le problème vient de toi, il faut que tu trouves le moyen de sortir la meilleure version de toi-même et compagnie. C'est politique. Un roman à l'eau de rose totalement aseptisé, c'est politique aussi. C'est une manière de faire passer le réel extrêmement violent, de le faire passer comme... faire passer une heure, deux heures, enfin le temps de la lecture, qu'on puisse se mettre loin de tout ça. Donc quel que soit ce qu'on écrit, c'est politique. Donc au moins pour ce roman-là, pour les autres je verrai, mais dans le premier ça l'était déjà pas mal, je verrai si je pense autrement plus tard, mais au moins dans celui-là, je me suis dit quitte à ce que ça soit politique, autant que ça le soit totalement. Mais politique, encore une fois, en ayant un regard compréhensif et tendre, mais aussi en tapant sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les méchants flics et de l'autre côté les bons black blocs. Je ne pense pas les choses comme ça.
Alors, est-ce que c'est possible que tu fasses un petit freestyle ou de nouveau une petite lecture ?
Oui, une lecture plutôt. Parce que le rap, c'est vraiment... par exemple, là, dans deux jours, je serai à Arles pour une performance, et il y a un passage, il y a des passages rappés où sur scène je compose de la musique et je rappe, mais parce que ça fait partie d'un tout, il y a des extraits du roman, il y a d'autres textes qui sont plus de la poésie sonore, il y a plein de choses différentes, il y a du chant, c'est un tout. Et sinon les trucs juste de rap ou de freestyle, c'est plus maintenant des trucs pour moi, enfin intimes quoi. Allez, un autre extrait. Allez, on va aller vers quelque chose de plus tendre. Allez, ça. « étreinte. Une petite main fine ébouriffe les cheveux, tandis qu'une autre effleure la joue. Glisse vers la bouche, le long de la pommette, à l'endroit exact où la cicatrice rougeoie. Parcours, sillonne, laps. Au moindre mouvement, s'échappe. Un corps face à un autre, regard curieux, grimace en peine, avait déboulé de nulle part, cœur de récré, fond de cour. Les mains s'étaient d'abord saisies, brusquement, jeu de dupe, pour ensuite attraper les hanches et les enrouler vers le sol. Dans la poussière d'une bagarre, tendresse camouflage, les sillons papillaires s'étaient retrouvés contre ceux d'une suture. Un instant, un silence. Et la gêne qui pourrait les saisir l'un et l'autre, deux corps devenus funambules suspendus à un doigt. Un regard s'abaisse, l'autre s'attarde. La cicatrice, vue pour ce qu'elle est. Une vallée, calme, un dénivelé abrupt, un col sec, une crête, un adret, une arête, un large plateau, une paroi escarpée, une crevasse, un mont, une gorge, un coteau, une avalanche de larmes, une retenue d'eau, un nubac, une aiguille, un pic suivi d'une falaise, d'un piémont, d'un sanglot. Oui, la cicatrice écoutée pour ce qu'elle est. Une parole au monde qui dit avec pudeur le trauma, la blessure en témoignage, la meurtrissure comme tatouage. Le corps n'oubliera pas, il fera avec, il composera. Ensuite, la cicatrice entendue pour ce qu'elle est. Un aveu, une tentative. Sans cicatrice, on ne guérit pas. Un franc jeu, une nominative. La cicatrice se passe d'argot, d'argot. Nombreux les corps qui résonnent mal avec les mots. Enfin, la cicatrice crue pour ce qu'elle est. Une souffrance profonde que rien ne referme. Un laps, juste un laps. Pour être vu, écouté, entendu, cru. Ni oubli, ni pardon. Et puis le bassin qui pivote, poids de corps valdingué, retour à la bagarre, poussière et rire éructé.
Merci.
Merci à vous.
Du coup, on va passer à l'interview de Cassis, 42, mais on reviendra vers toi ensuite.
Donc, pouvez-vous nous présenter votre collectif ?
Alors, le Cassis, c'est un collectif anti-REP qui existe depuis 2018. Il existe depuis le mouvement des Gilets jaunes. C'est un moment où on voyait plein de gens se faire écraser par la machine de la justice, subir des violences policières, prendre des tirs de LBD. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on se forme collectivement sur les questions de garde à vue, sur de l'autodéfense collective, trouver des noms d'avocates et comment porter plainte contre la police.
Quel type de situation vous intervenez et qui est-ce qui va venir s'adresser à vous après quel type de répression ?
Du coup, il y a un peu deux façons de fonctionner. C'est soit il y a des gens qui font directement appel à nous parce qu'on commence à être un petit peu connu et on a diffusé des cartes de visite, on a une page Facebook, des choses comme ça. Du coup, soit il y a des gens qui viennent directement faire appel à nous, soit c'est nous qui allons à la rencontre des gens quand on entend parler de faits de violence policière ou de choses comme ça. Et du coup, on aide un peu deux types de personnes. Au début, c'était pas mal des militants parce qu'on faisait pas mal de ce travail de faire une équipe de Legal Team en manif. Et du coup, on a un numéro de téléphone qui était diffusé où les gens peuvent nous appeler s'ils voient une arrestation ou s'ils ont un proche arrêté pour pouvoir apporter du soutien à ce moment-là. Et de plus en plus, on cherche à essayer de soutenir un autre type de public. Et du coup, plutôt des personnes précaires ou des personnes isolées. Et du coup, là, donc c'est pas mal. Enfin, ça peut être des gens qui se font arrêter pour avoir volé 3 paquets de pâtes et qui se retrouvent dans cette grosse machine de la justice. Il y a aussi des gens qui... On se retrouve pas mal à aider des gens qui se retrouvent isolés en prison, du coup, à qui on envoie un peu des sous tous les mois pour pouvoir cantiner. Et du coup, ce qu'il faut savoir qu'en prison, en fait, on a vraiment un peu le minimum vital en termes d'aliments, de produits d'hygiène et tout. Du coup, avoir quelques dizaines d'euros par mois, ça peut rendre la situation un peu moins pire. Et on aide aussi, on essaye de venir en aide aux familles. Par exemple, on a des personnes à qui on file un coup de main quand elles se retrouvent à devoir faire 500 km pour aller voir leurs proches au parloir. Du coup, ça peut nous arriver aussi d'aider ces gens-là dans ces moments-là, quoi.
Avez-vous rencontré des réussites, des luttes qui ont abouti suite à vos actions ?
Du coup, c'est un peu dur à dire parce que nous, notre but, c'est d'essayer de lutter un peu contre la répression. Mais du coup, notre objectif final, ce serait un peu l'abolition de la police et la destruction des prisons. Du coup, la réussite de ça, c'est un peu c'est un peu complexe, pardon, on a une petite marge de manœuvre encore. Mais après, du coup, des fois, on a des résultats un peu plus concrets où, en fait, on a l'impression qu'il y a des gens qu'on a pu un peu former sur les questions de garde à vue ou des choses comme ça, et qu'on a l'impression qu'il y a des gardes à vue qui se passent un peu moins mal, où il y a eu des fois où on a pu accompagner des gens, par exemple, à trouver un emploi qui leur ont permis d'avoir des aménagements de peine et de sortir de prison. Du coup, des moments, on a des petites choses comme ça assez concrètes. Et du coup, globalement, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un truc d'amasser des petites miettes et des petits grains de sable pour essayer de faire quelque chose, mais que ça restera toujours un peu des petites bribes de trucs, quoi.
Est-ce qu'il existe des collectifs similaires ailleurs? Et si oui, est-ce qu'il y a des réseaux qui ont été établis?
Alors oui, il existe des caisses de soins un peu partout en France. Il y en a, ça peut être des syndicats qui les ont montés, enfin, c'est en fonction des mouvances politiques, des situations. Il y a même des ZAD qui parfois montent des caisses de sceaux pour un temps donné, spécialement pour cette lutte-là. Et sinon, nous, on est en lien avec des caisses en France pour se donner des conseils juridiques, parce qu'il y a des caisses qui ont beaucoup plus d'avocats et d'avocates que nous, du coup beaucoup plus d'infos que nous. Donc on se donne des conseils, on se soutient des fois financièrement. Et si vous voulez les trouver, c'est sur un site qui s'appelle le Rage Collectif, ça s'écrit R-A-J, et vous pouvez trouver toutes les caisses de sceaux de France si vous avez besoin, enfin de ce collectif-là.
Du coup, comment on peut vous joindre? On peut vous joindre par ce Rage Collectif.
Du coup, ouais, nous, on a une page, si je ne dis pas de bêtises, sur ce... Bah sur ce site-là, en tout cas, déjà, on a à l'onglet Saint-Etienne, on peut nous trouver. Et après, on a une page Facebook et on a une adresse mail, c'est cassis, comme le fruit, 42@riseup.net. Et sinon, on a un numéro de téléphone. Du coup, c'est le 06 34 42 92 36. Du coup, on essaie souvent, on ne répond pas direct, mais vous pouvez soit envoyer des textos ou laisser des messages, et on essaye d'être assez réactif dans la mesure du possible, quoi.
Est-ce que je peux rajouter un truc ? Du coup, le CACI, c'est un projet collectif. Et quand on entend collectif, c'est qu'on aimerait que les gens s'en emparent et nous aident financièrement. Parce qu'en fait, on est surtout un soutien financier, c'est-à-dire qu'on paye les frais d'avocat aux gens, on paye les trajets. Et malheureusement, on vit dans un monde où tout ça, ça fonctionne avec l'argent. Et du coup, si nous, on passe beaucoup d'énergie à faire des soirées de soutien, à organiser des concerts, des goûters, des trucs. Du coup, s'il y a des gens qui ont la motte de faire ça, ce serait super. Et sinon, on a un Hello Asso, où il y a moyen de faire des dons. Voilà, petit moment pub thune.
Le lien du Hello Asso, on le trouve sur numéro 0. À la rubrique Cassis.
Je vais vous proposer une collab, parce que... en fait, j'organise un concert. Je fais vraiment ça pendant l'émission. Et bah en fait, on fait une buvette ou un truc comme ça, et on peut se mettre ensemble et partager les frais, enfin les fonds. Enfin,
ah
les
ouais,
bénéfices.
Les frais.
Enfin, non, mais non, pas les frais, les bénéfices, oui, l'argent gagné, quoi.
Grave.
Voilà, c'était ma petite propagande.
C'est exactement ce genre de situation qu'on veut vivre vachement plus régulièrement.
Non, mais voilà, oui.
8-9-5 de Joe, on écoute toujours l'atelier sur la répression avec le Cassis et Marin Fouquet, et tout de suite on écoute Sale Boulot de La Canaille.
Sale. Sale boulot. Tu fais le sale boulot. À chaque manif, tu fais face, et la place que t'occupes me dépasse. T'as l'insigne ennemi sur la poitrine, t'as l'insigne indigne qui terrasse. Tu nous tases, tu nous nasses, tu nous frappes, tu nous gazes, tu nous chasses. Tu nous tires dessus, un sbire de plus à la solde des pires obus. Vois-tu pas qui tu barres la route? Et l'huile sur le feu que ton camp rajoute. Comment tu brises les rêves? Broie la grève d'une foule qui a faim, qui refuse la voûte. Une foule qui défend ses droits, et ceux des gosses qui t'attendent chez toi. Ne vois-tu pas le paradoxe qui découle quand les molosses de ta police se défoulent? Sale boulot. Sale boulot. Sale boulot. Tu fais le sale boulot. Sale boulot. Faciès, débit de bassesse. Voilà bien la monnaie de ma pièce. Me traite de macaque, tes collègues acquiescent. Vermine, qu'on dératise. Un sur deux voudrait que je fasse mes valises. Partisans du front qui tétanise. Ose dire que je généralise. Et les barbares à la barbe rousse rentrent au quartier comme une milice. Et la haine se lit dans l'iris. Et la justice a quitté ou étouffé ses vices. Tes bavures deviennent ordinaires. Et tes contrôles mortifères. Si tu veux du respect, montre aux pattes blanches d'abord. Trop de frères entre quatre planches. Sale boulot. Sale boulot. Sale boulot.
reste un fils de pauvre. T'as beau frotter, t'as l'odeur fauve. Tu t'exécutes dans un silence de glace. Mais où est passée ta conscience de classe? Ironie du sort grotesque, c'est tes potes qui m'écrasent si je proteste. Ta matraque qui menace, qui moleste. À te voir la mélasse fasciste de beau reste. Garde chion attardé, serviteur pour notre table attablée. Bras armés se bagarre au nom d'une élite accablée. Où est la trace de ton humanité? Quand tu fonds dans la masse de ma rue agitée. Quand t'expulses, quand tu déloges. Et les ordres jamais qui dérogent. Sale boulot. Sale boulot. Sale boulot. Tu fais le sale boulot. Sale boulot. Sale boulot. Sale boulot. Tu fais le sale boulot. The plan is God, his work is can. Surplus labor, no demand. They send you out to run the land. Paddy rollers ride again. The hardest thing about this plan, it's fam on fam, same class and clan. I know you when you scratch the truth. You see me and you more than the blue. That might be why your hate's on rise. You could see pride, but you despise. You said you signed up to save lives. So how come at your hands we die? I'll pay you to protect and serve a wealthy, paying you with perks. And when the rich done with your work, they kick you right back in the dirt. Spit out the pill and spit it quick. The civil war is for the rich.
Que mettez-vous derrière le terme de répression? Répression de qui? Sur qui? Dans l'intérêt de qui ou de quoi?
Moi, je peux commencer. Pour moi, je le vois comme le répression, c'est vraiment le faire. Enfin, ça vient un peu du mot punition. Et du coup, nous, en tout cas, dans le cadre du collectif, c'est vraiment du coup la punition d'un acte ou d'un fait qui a été commis. Et du coup, nous, ce sur quoi on agit, c'est vraiment. Pour moi, en tout cas, des actes ou des faits qui sont soit de l'ordre des trucs militants, soit de personnes qui sont dans des milieux ultra précaires et, ou dans des minorités. Et du coup, j'ai l'impression que tout ça, c'est lié au fonctionnement de ce monde, comme tu parlais un peu tout à l'heure, qui est fait de façon à ce que, du coup, il y ait des gens au-dessus qui gagnent plein d'argent et qu'en bas, en fait, on se retrouve juste à galérer pour permettre à ces gens de gagner encore plus d'argent et qu'en fait, au moindre faux pas, il y a ce gros appareil de répression là qui est là pour nous remettre bien dans le droit chemin et que du coup, au-delà des peines qui sont posées, j'ai l'impression que la répression, elle a vraiment un but un peu psychologique aussi d'empêcher les gens d'aller faire des choses, le but principal de ce truc-là, pour moi, c'est vraiment de mettre les gens dans le bon axe et dans le droit chemin pour être bien comme des moutons, à aller faire bien avancer cette machine, quoi.
Je crois que la répression, je sais pas, moi, la manière dont je le vois, c'est comme un... Devant toute tentative d'émancipation, quelle qu'elle soit, c'est l'acte de remettre, de foutre une énorme chape de plomb dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de nouvelles tentatives d'émancipation. Mais je crois que, enfin, moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de déceler qu'est-ce qui, dans mon quotidien, à quel endroit est-ce que moi-même je suis répressif ? Et l'idée pour moi du livre et de faire un livre et que les gens le lisent, c'est que aussi peut-être, j'espère, ils se posent la question eux-mêmes de à quel moment est-ce que moi je suis répressif ? Dans le sens où le truc du grand capital répressif, c'est une réalité. C'est une réalité, malheureusement, peut-être que je suis défaitiste ou cynique, je sais pas. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ce combat-là, en tout cas, je sais pas, c'est peut-être du cynisme. Ce combat-là, il est quasiment hors de portée. Par contre, de chercher à quel endroit est-ce que soi-même on est répressif, à quel endroit est-ce que soi-même on est dans notre ADN, on nous a à un moment donné foutu des préjugés, du racisme, du sexisme, de l'homophobie, quoi. Enfin, qu'on nous a mis tout ça et des réflexes d'un seul coup, dès qu'il y a une tentative d'émancipation de quiconque, d'essayer de le soi-même, mais c'est des micro-choses, hein, c'est des choses dans le quotidien, un ami qui parle beaucoup trop fort, qui fait beaucoup trop de bruit, et on va d'un seul coup faire en sorte qu'il ferme sa gueule, mais c'est des micro-choses jusqu'à des choses beaucoup plus violentes qu'on peut être amené à faire dans le milieu du travail, dans le milieu aussi des luttes, dans le milieu de quoi que ce soit. Donc moi, c'est plus cet aspect-là qui m'intéresse à travailler.
Du coup, moi, j'avoue que je ne sais pas trop me placer par rapport à ça parce que je ne suis pas totalement pessimiste sur la répression. Parce que je me dis que je me réprime, moi, tous les jours dans plein de trucs que je fais. Et je vois aussi la répression comme le fait d'essayer d'opprimer les personnes qui veulent être différentes. Du coup, ça nous prouve bien... Enfin, moi, j'ai été victime de répression plusieurs fois. Et ça me montre aussi que, en fait, ouais, je suis pas comme tout le monde. Et d'ailleurs, ça fait chier. Et que les gens qui veulent nous former à être tous et toutes les mêmes, je les embête. Et du coup, je trouve que ça a un petit côté positif. Parce que j'aimerais qu'on garde cette image de personnes qui font pas comme les autres, qu'on soit pas dans les normes. Et du coup, je trouve ça super, super intéressant. Par contre, ça garde quand même une connotation négative, pleine de haine et de tristesse, le mot répression, parce que c'est tant physique que psychologique. Et ça a des... Bah, je dirais que ça a des conséquences énormes sur les personnes qui ont été victimes de ça. Et on n'a pas... En tant qu'activiste ou militante, on a des formations, du coup... qui nous permettent de se débrouiller pour être réprimés au minimum ou savoir réagir en cas de répression, mais c'est pas accessible à tout le monde et du coup ça met certaines personnes en difficulté face à ce genre de situation.
Pour Marin, du coup, est-ce que vous êtes en lien avec un ou des collectifs anti-répression ?
Non, je me suis à un moment donné éloigné de toute vie militante, par déception beaucoup, par questionnement aussi. Je trouve ça important qu'il y a plein de collectifs qui sont extrêmement importants et nécessaires. Mais non, moi personnellement, je me suis retiré de ça, comme de beaucoup de choses. Et j'écris, tout simplement. Mais de la même manière, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, de c'est juste des petites miettes et compagnie, je crois que ces petites miettes-là sont bien plus importantes que tous les discours qui peuvent être tenus parfois, qui peut y avoir plein de discussions qui peuvent être plein de grands débats, plein de grandes théories ou plein de grands projets fumeux qui cachent derrière des rapports de domination extrêmement forts au sein même d'un parti, au sein même d'un collectif, au sein même de nos rapports. Et je crois que ces victoires-là que vous faites, bah, elles changent réellement quelque chose. La vie d'un type, la vie d'une femme, dans leur quotidien. Et faire tomber le grand capital. Et en même temps, j'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis ça. Et j'aurais détesté le vieux con qui dit ça. Et en vrai, j'ai grand espoir que votre génération et celle encore en dessous y arriveront. Malheureusement, en ce qui concerne ma génération, j'ai beaucoup de doutes que la mienne ait réussi à faire quoi que ce soit dans ce sens-là. Mais je trouve par contre de réussir à faire les miettes que vous dites de faire, c'est des bien plus grandes victoires.
Est-ce qu'il y a eu un élément ou des éléments déclencheurs qui vous ont poussé à vous impliquer vis-à-vis de cette thématique de la répression? Est-ce qu'il y a des réalités que ça peut recouvrir ou pas?
Moi, je pense que un élément déclencheur, comme pour beaucoup, ça a été 2016, la loi travail, et énormément d'arrestations dans mon entourage. Et que du coup, bah, ça donne envie de connaître ses droits, de savoir comment on accompagne des gens quand ils sont en garde à vue, de savoir ce qui est en train de leur arriver, de savoir comment on peut les aider. En fait, on se sent tellement impuissant et désarmé, et quand il y a quelqu'un qu'on aime qui est enfermé, quoi, que ça donne vraiment envie de se bouger, en fait. Après, moi, c'est la première fois que ça m'impactait directement, mais j'avais des amis qui avaient déjà, pour la plupart, des frères en prison, et j'ai vu ce désarroi, quoi.
Ouais, moi, je crois que c'est un peu pareil. C'était
c'était à cette époque-là, j'étais pas mal sur des différents lieux de lutte, et je crois que le moment où j'ai eu un peu le déclic, c'était la fois où, pour la première fois, j'ai eu un pote qui est parti en prison. Et du coup, ça a un peu déconstruit aussi tout l'imaginaire autour de la prison, où je trouve que quand on dit qu'on est contre les prisons, c'est hyper dur. Enfin, c'est l'un des trucs politiques, je trouve, les plus durs à défendre et les plus durs à justifier de pourquoi on trouve que ça peut pas marcher, ça a pas de sens et tout ça. Enfin, là, de capter à ce moment-là qu'en fait, ce pote qui avait juste, il avait eu un cumul de plusieurs petites arrestations et de plusieurs petites peines qui finalement l'ont amené à faire 6 mois de prison une première fois. Je crois que ça m'a fait un truc de me dire, mais en fait, c'est juste pas possible que ça puisse se passer comme ça et dans des cercles aussi proches, etc. Et du coup, d'avoir envie de se bouger face à ça, quoi.
Ça fait aussi se rendre compte de son privilège blanc, qui est de se rendre compte à 25 ans que la prison, ça existe.
Ouais, c'est clair.
Ça, c'est, ouais, et c'est vraiment... Et dans le bouquin, à un moment donné, j'en parle de... Je me rappelle de ce moment des... Je sais pas si j'arriverai à le retrouver, mais... Je sais pas si vous rappelez de ce moment, de cette vidéo qui avait tourné, qu'un flic avait tourné, enfin, avait filmé, d'une vingtaine de jeunes adolescents qui étaient tous en ligne avec les mains sur la tête, et ils disaient ah, voilà une classe qui se tient sage. Et ça, bien sûr, tout le monde s'était scandalisé sur le coup, et puis comme d'habitude, c'était passé à la trappe. Puis ensuite, lorsqu'il y a eu les gilets jaunes et que ça a été des bons pères de famille bien blancs qui ont été arrêtés, là d'un seul coup on s'est mis à parler des violences policières. C'est horrible, les tirs de LBD, vous vous rendez compte, ça éborgne, machin, bidule. Et sauf que les violences policières existent dans les quartiers populaires depuis, enfin, ça n'a pas commencé avec les gilets jaunes, quoi. Et là où moi, par rapport, pour un peu développer, parce que juste dire je suis défaitiste et je suis un vieux con, c'est une chose, mais c'est plus, j'ai l'impression qu'il y a une non-transversalité dans ces luttes-là, où à partir du moment où ça touche très précisément le domaine de militantisme dans lequel on est, là d'un seul coup, oui, ça concerne, puis en dehors, il n'y en a pas. Alors que les violences et la répression, toutes les violences et toutes les répressions sont liées, elles se nourrissent entre elles et elles-mêmes. Sauf que chaque militantisme est extrêmement isolé et s'occupe de sa cause, de la cause qu'il a choisie, et ne va pas soutenir l'autre cause du voisin ou de la voisine. Et je crois que peut-être que c'est ça qui manque. Enfin, je sais pas, hein, je suis personne pour dire ça, mais peut-être que ça peut être une piste.
Quand tu parlais tout à l'heure du développement personnel, tu disais c'est politique. Et bon, tu en parlais avec une idéologie macroniste, enfin, on sentait bien que tu étais en désaccord. Et un petit peu après, tu as dit oui, mais les grandes idées, non, il vaut mieux changer son regard à soi. Et est-ce qu'il n'y a pas un point commun de dire, puisqu'on ne peut pas changer la société, on va changer soi? Il n'y a pas un petit point commun entre le renoncement dont tu parlais et le développement personnel que tu méprisais, à mon avis, à juste titre? Est-ce qu'il n'y a pas un petit point commun? Voilà, on ne peut rien faire, donc on va changer soi parce qu'on ne peut pas changer l'extérieur.
Oui, après, ce n'est pas pour des buts similaires. Là, ce n'est pas changer soi pour devenir la meilleure version de soi-même et gagner le plus de fric possible et monter une start-up et avoir une licorne, quoi. C'est pas changer ça pour ça, c'est juste d'abord se changer soi pour changer les rapports qu'on a aux autres et pour au moins le peu de temps qu'on passe sur cette terre, faire un minimum de mal possible. C'est peut-être un premier but, de pas faire du mal aux autres. Pour moi, c'est plus comme ça que je le vois.
Du coup, en parlant de lien avec les autres, quel type de lien dans les attentes et dans la réalité vous attendiez à avoir avec soit les lecteurs et les lectrices de votre livre, soit avec les personnes que vous rencontrez qui viennent vous voir pour être soutenues? Est-ce que ça, en tant que collectif ou écrivain, ça vous permet de tisser des liens forts, ou est-ce que c'est juste pour vous libérer, et puis parce que ça vient de d'anecdotes personnelles, notamment donc le livre se libérer de la parole par rapport à plein de choses qu'on a appris, ou pour le collectif qui fait que en fait on a eu des expériences qui ont fait qu'on voulait créer un collectif parce qu'on trouvait pas ça normal, ou est-ce que c'était vraiment pour le lien social à la base? Désolée.
Alors désolée, je crois que j'ai oublié la moitié de la question. Bon, je voulais répondre au début de ta question qui était nos attentes et ce qui s'est passé dans la réalité. Tu parlais des milieux militants qui restent entre milieux militants, etc. J'ai l'impression qu'il y a plein de milieux militants qui ont comme attente de sortir de leur milieu. Sauf que dans la vie, je pense qu'on fait tous collectif avec les gens avec qui on vit, avec les gens avec qui on grandit, et qu'il y a d'autres collectifs dans d'autres endroits qui existent, et que chacun s'organise, s'auto-organise. En fait, moi, j'ai hyper confiance en l'auto-organisation de, je sais pas, de quartier, de famille, d'amis, de milieu militant, qui est aussi en fait un milieu d'amis finalement. En tout cas, comme tous les collectifs, on avait une attente de s'approcher de gens pas de notre milieu. Et en fait, la chance qu'on a, c'est que la répression, malheureusement, elle touche tout le monde. Et du coup, on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sans ça. Des gilets jaunes, des familles qui ont besoin d'aller voir une personne incarcérée. Et finalement, par cette action, qui est beaucoup plus concrète que, je sais pas, ouvrir un lieu militant ou des choses comme ça, on a rencontré des gens pas de notre milieu. Mais j'ai pas envie de reprocher aux collectifs militants de pas réussir à toucher tout le monde, parce qu'en fait, il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de s'organiser avec nous. Et qu'on peut pas demander à ce que notre lutte, notre manière de s'organiser, elle intéresse tout le monde. Plutôt peut-être qu'il faudrait qu'on aille s'intéresser à comment les autres s'organisent en fait. Voilà, du coup on a rencontré plein de gens, on a fait des liens pas forcément très forts mais un peu, je sais pas comment dire. Les gens se souviennent de nous quand on les aide, et souvent nous aident de manière assez drôle derrière et nous proposent de nous filer des camions ou des trucs comme ça et de conduire des poids lourds pour nous. Du coup on a rencontré des gens assez chouettes, ouais.
Alors, une question pour Marin. Le livre a-t-il une sorte de visée instructive, pédagogique, sur les gardes à vue ?
De visée pédagogique, j'ai effectivement eu des retours de lectrices et de lecteurs qui me disaient, parce qu'eux n'avaient jamais eu affaire de près ou de loin à la police, et encore moins à la garde à vue, qui m'ont dit « putain, c'est dingue, je me suis rendu compte de plein de choses, de la chance que j'avais, j'ai compris plein d'autres choses et tout ». Donc ça, c'est chouette. Après, moi, quand j'écris, je me dis pas « je vais apprendre ça ». Enfin, je pense ni aux lectrices ni aux lecteurs qui pourraient le lire. Déjà parce que ce serait trop effrayant, dans un truc purement pratique, de penser aux gens. Il y a des auteurs et des autrices qui le font, hein, qui pensent à un certain public et compagnie. Moi, j'en suis incapable, parce que je trouve qu'il y a rien... Enfin, moi, ça me bloquerait, quoi, pour pouvoir écrire. Il n'y a pas plus de visée que, déjà, de raconter des histoires, des différents personnages, aussi de manière plus large, de travailler la langue, parce que c'est mon métier. C'est-à-dire que le livre parle de quelque chose, c'est vrai. Il porte une colère, c'est vrai. Mais aussi, moi, mon taf, c'est de travailler la langue, Et si ça peut permettre des choses, tant mieux. Si ça permet des discussions, tant mieux. Ça permet des... Il y a aussi des personnes qui m'ont dit « putain, je l'ai lu, j'étais vraiment pas d'accord, machin. » Et c'est bien aussi, en fait. Enfin, j'ai pas d'attente en particulier.
Du coup, tu voulais peut-être répondre à la question « est-ce que toi, t'as tissé des liens avec des gens en particulier en tant qu'écrivain ?»
Des liens, c'est un grand mot. Il y a des gens qui viennent aux rencontres. Je fais des ateliers d'écriture avec toutes sortes de publics, des collégiens, des lycéens, dans des facs, dans des centres pénitentiaires, dans des MEX, dans des CFA. Donc, il y a des liens qui se créent, mais pas vraiment au travers du livre. C'est plus dans les ateliers d'écriture, c'est autour du plaisir d'écrire. Dans les rencontres, c'est plus autour du moment qui se passe. C'est le livre qui le permet, parce que sinon les structures ne m'inviteraient pas. Si je n'avais pas sorti un livre, ça ne les intéresserait pas d'avoir un type lambda qui vient et qui vient parler de l'écriture. Donc tu as un livre, donc ça veut dire que tu es auteur, donc là on t'invite. Mais voilà, c'est plus par les micro-rencontres qui sont organisées.
8-9-5-2 Duo, toujours dans sa jacasse, toujours l'atelier sur la répression avec le Cassis et Marin Fouquet. Cette fois, on écoute Sound of the Police de KRS-One. Sound of the Police!
Imaginez d'autres moyens de lutter contre la répression, des choses qui vous feraient envie, qui existent ou qui n'existent pas, juste histoire qu'on ne se focalise pas uniquement sur les groupes militants et l'écriture pour lutter contre la répression, que ce soit la répression personnelle ou étatique.
Je sais pas, réfléchi à d'autres moyens que les moyens qui sont déjà connus, mais c'est sûr qu'il y en a plein, je pense, mais il faudrait juste qu'on apprenne... Enfin, en fait, pour moi, il y a plein de trucs qu'on se rend pas compte. Enfin, comme tu le disais tout à l'heure, il y a plein de genres de répression. Enfin, des fois, je dis à Inès d'arrêter de gueuler parce qu'elle me saoule et qu'elle nous tape la honte en public. Mais en vrai, c'est vrai que, enfin, j'ai l'impression qu'on empêche un peu les gens d'être eux-mêmes. Enfin, oui, c'est bon, arrête de faire non plus. Bref, je me rends compte du coup que bah, il y a peut-être des moments où je réprime les gens et je me rends même pas compte. Donc, il y a peut-être un moyen où on devrait se rendre compte nous-mêmes de genre de répression qu'on fait sur nous-mêmes et sur les autres, quoi. C'est pas très clair, mais bref, voilà.
Moi, je pense qu'une des solutions, enfin, surtout pour notre âge à nous, c'est d'en parler parce que je pense et je sais, c'est qu'il y a plein d'ados ou de gens de notre âge qui savent pas ce que c'est la répression parce que soit ils sont privilégiés, soit ils viennent de milieux où ils vivent pas ça. Enfin, moi, je sais personnellement, j'en ai jamais vécu en soi. Enfin, peut-être des trucs comme Eva Scaladi, mais pour moi, c'est pas vraiment de la répression parce que peut-être j'ai pas ce recul-là. Mais moi, je sais que j'ai fait des manifs ou des trucs comme ça, je me suis jamais fait arrêter, j'ai jamais vécu ça. Donc, ça fait que j'ai un recul. Et je trouve que les moments comme ça, d'en parler, ça fait réaliser plein de choses. Et je pense que ça, c'est la communication et vraiment sensibiliser les plus jeunes pour qu'ils comprennent et qu'après, justement, ils luttent contre ça.
C'est vraiment de visibiliser, donc soit par des affiches, ce qu'on est en train de faire, des émissions radio, tout ça, vraiment pour que les gens se rendent compte, parce que comme on a dit, c'est quelque chose d'assez pas tabou, mais oui, on n'en parle pas beaucoup, donc faudrait montrer aux gens que ça existe et pour qu'ils puissent se rendre compte, parce que souvent en fait on vit la répression mais on s'en rend pas compte.
Moi, pareil, j'ai jamais trop réfléchi là-dessus, mais c'est un peu comme a dit Inès, je pense que c'est la communication, il faut en parler entre nous. Et là, comme on le fait aujourd'hui, je trouve ça intéressant parce qu'on apprend beaucoup. Et je pense que c'est une des solutions pour qu'on avance, c'est d'en parler, mais vraiment avec tout type de personnes.
Du coup, nous, les moyens qu'on propose, c'est des formations garde à vue, si jamais vous avez besoin. On peut vous former pour que vous connaissiez vos droits, en fait. Déjà, ça, c'est un moyen de se défendre, de connaître ses droits. Ensuite, il y a un autre truc, c'est une application qui s'appelle Bad Citizen, qui veut dire mauvais citoyen. Et c'est une appli que vous pouvez télécharger qui vous donne plein d'infos sur vos droits, sur la garde à vue, sur quand vous êtes mineur, ce que vous risquez. Et enfin, un dernier truc, c'est on a encore le droit de filmer la police. Donc, quand vous voyez une voiture de police ralentir, essayez de ralentir aussi et de voir ce qu'ils comptent faire. Essayer de soutenir les gens qui vont se faire identifier ou filmer-les utiliser votre privilège blanc pour faire groupe autour des personnes. Moi, je pense que c'est un des moyens, c'est de garder l'œil ouvert et d'être solidaire quand on voit des trucs comme ça.
Et du coup, tant qu'on parle d'appli et de filmer, il y a aussi l'application qui s'appelle Urgence, notre police assassine, où en fait, c'est une appli qui permet de filmer et en fait, la vidéo est directement enregistrée sur les serveurs de l'application. Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais en tout cas, ça veut dire que du coup, si les flics, par exemple, demandent d'effacer la vidéo ou saisissent le téléphone, en fait, la vidéo, elle est directement enregistrée par le collectif qui a fait cette application. Et du coup, ça évite à plein de moments de détruire ces preuves, enfin, que les keufs puissent détruire ces preuves vidéo. Du coup, c'est aussi un outil chouette que c'est cool d'avoir sur nos téléphones.
Je veux juste rajouter un truc, quand je dis quand vous voyez une police s'arrêter, ralentir, etc., vous mettez pas à les insulter ou à vous faire embarquer aussi. C'est pas du tout ce que je vous conseille. Juste parfois, s'arrêter et regarder, ça suffit en fait pour dire on vous voit en fait. Des fois ça suffit. Voilà, juste ça.
J'ai une question pour tout le monde. Est-ce qu'il existe des liens pour vous spécifiques entre la jeunesse et les répressions ?
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que... on dirait que je vais dire un truc hyper intelligent, pas du tout. Mais c'est juste que, les jeunes, j'en suis sûre que plus de trois quarts ne savent pas ce que c'est une répression. Parce qu'il y a peu. Enfin, on est quand même une génération assez engagée, je pense. Mais ça reste très minime. Et c'est ce que je dis, c'est moi, j'en suis sûre, j'ai plein de copines, je leur dis vous savez ce que c'est la répression ? Bah non, c'est quoi ? Ou des trucs comme ça, enfin, que ce soit la répression par rapport à soi-même ou les violences policières, etc. Et c'est ça que je trouve dommage. Donc il n'y a pas encore un lien hyper fort avec... Enfin, j'ai l'impression que la répression, pour le comprendre, savoir ce que c'est, il faut le vivre en fait. Et avoir un déclic qui fait que... ah ok, on a vu ça et on sait que c'est ça. Enfin moi, j'ai l'impression que c'est ça, quoi.
C'est dommage, je trouve qu'on doive le vivre pour comprendre ce que c'est. Enfin, on devrait tous savoir ce que c'est et quand est-ce qu'on la vit avant de se rendre compte qu'on la vit.
Moi je suis extrêmement vieux, donc j'ai fait ma première manif, c'était en 86, je me souviens, pour les lois de Baquet, enfin bref. Et ce que je voulais dire, et je me souviens qu'il y avait un côté où on est très insouciant, et moi j'étais très choqué de voir ce qui s'est passé il y a quelques années, parce que j'ai un souvenir, on était très insouciant. Il y avait un côté où on est jeune, on touche pas aux jeunes. Il y avait un espèce de truc, on touche pas aux jeunes, c'est sacré, il y a un côté, c'est trop mauvais pour l'image de marque. Et du coup, quand ils se sont mis à vous taper sur la gueule, j'étais extrêmement surpris, parce que j'avais un souvenir d'un privilège jeune, en fait. Ils n'osaient pas. Moi, j'avais vécu ça comme ça à votre âge, donc je pensais que c'était pour l'éternité. Donc j'étais très, très surpris par ce qui s'est passé. Le privilège jeune a disparu.
Et ben moi, justement, ça tombe bien, parce que je comptais rebondir là-dessus, mais dans l'autre sens, où pour moi, j'ai l'impression qu'il existe un vrai rapport de domination adulte-enfant, si on caricature. Et si on reprend, en fait, ce que Marin, tu disais tout à l'heure par rapport à ce qui s'était passé il y a un ou deux ans là, de la fameuse classe qui se tient sage. En fait, si on faisait le parallèle avec des ouvriers qui sortaient de leur usine en manif sauvage, jamais des keufs se seraient permis avec des adultes de faire une telle chose. Et du coup, moi, pour moi, c'est clairement un... Enfin, ça visibilise clairement ce rapport de domination, d'agisme. Et du coup, après, moi, j'ai l'impression, en tout cas sur de la répression policière, enfin, moi, je dirais que oui, il existe des liens spécifiques entre les jeunes et la répression, mais en distinguant un peu, c'est un peu bizarre de faire ça comme ça, mais deux catégories et en différenciant, en fait, les jeunes des quartiers populaires qui sont du coup des personnes... Enfin, les jeunes des quartiers populaires et les personnes racisées qui, du coup, elles vont vivre une répression quasiment quotidienne avec plusieurs fois par jour qui, du coup, souvent dérivent. Et du coup, c'est une répression qui est subie et qui est récurrente. Et du coup, je distinguerai quand même bien avec du coup, les jeunesses militants où, du coup, effectivement, ces dernières années, on a vu pas mal de mouvements, que ce soit les mouvements pour le climat ou etc. Où, du coup, là, effectivement, de plus en plus, c'est aussi des collectifs qui subissent de la répression, mais elle est vachement plus ponctuelle et, du coup, vachement plus choisie. Et du coup, je trouve important de faire la distinction entre les deux.
J'ai aussi un avis en fonction de ce que j'ai vécu. Donc, c'est pas du tout un avis à prendre comme une généralité. Moi, j'ai commencé à penser répression jeune, à partir du moment où j'ai eu peur d'aller en manif, de faire certaines actions, parce que je me retrouvais confrontée à la police et que la police connaissait mon nom ou mon identité. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu peur. Et du coup, peur, ça s'attache à répression pour moi.
Et du coup, moi, ça a commencé très jeune parce que j'ai commencé à militer jeune. Je pense que, très honnêtement, si j'avais pas foutu les pieds dans toutes ces orgas et toutes ces assos et autres choses militantes, j'aurais pas eu du tout d'approche avec la répression et j'aurais pas été concernée par tout ça, et je serais peut-être restée dans votre situation à me dire qu'est-ce que c'est la répression, pourquoi on dit que les flics peuvent être méchants, pourquoi ils peuvent taper, et c'est terrible en fait, ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est terrible de devoir vivre la répression pour la comprendre, parce qu'on n'a pas à avoir au quotidien, ou pas d'ailleurs, même de manière très ponctuelle, on n'a pas à avoir ce genre de choses et à comprendre ce genre de choses si jeune.
Oui, juste, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment, enfin, on n'a pas vécu, enfin, moi personnellement, de répression policière, mais après, je pense que, enfin, moi personnellement, je pense que j'ai un peu le recul personnel pour me rendre compte qu'il y a des gens qui vivent des répressions, et que même si moi j'ai eu la chance de pas en vivre parce que je suis pas particulièrement engagée dans des manifestations, enfin, je prends quand même conscience que ça existe et que voilà quoi.
Et je voulais dire aussi, c'est que on n'est pas obligé de vivre des répressions en manif, hein, je veux dire, il y a plein de gens qui se font contrôler pour aucune raison. Moi, j'ai un pote, c'était au collège, je m'en rappelle, on sort du collège, et il s'est pas arrêté, contrôlé, mais pour rien. J'ai pas compris, j'étais en mode bon, d'accord, très bien. Et moi, je suis pas la petite fille blanche parfaite, etc. Et les flics, ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit bonjour, très poli. Et j'avais mon pote noir qui s'est fait contrôler. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu aussi un recul en me disant... Ça existe des inégalités. C'est à ce moment-là que j'ai grandi. C'était ma fin de troisième. Et après, je suis arrivée au lycée. Et au lycée, j'ai rencontré des personnes engagées. C'est là où j'ai vraiment eu conscience des choses. Donc oui, après, nous, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu la chance de ne pas être réprimés ? Enfin, je ne sais pas si on utilise ce terme ou pas. C'est juste que oui, on a peut-être plus de privilèges que d'autres. Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est que c'est quand même... Oui, mais on n'est pas obligé d'aller en manif pour... Enfin, je veux dire, il y a d'autres manifs où tu peux être de manif tranquille et tu te fais contrôler pour rien. Et c'est ça le truc, c'est... Oui, enfin, voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais vraiment...
Bah, moi, personnellement, du moins dans mes souvenirs, je ne crois pas avoir vécu de répression. Enfin, dans les manifs, parce qu'après, pour moi, la répression, ça désigne plein d'autres choses. Enfin, c'est hyper global.
C'est vrai qu'au niveau du genre de la personne, c'est ultra différent le traitement qu'on a.
En tout cas, pour rebondir là-dessus, je crois que par rapport à quoi faire par rapport à la répression et compagnie, je crois que, enfin, en tout cas, moi, en écrivant le roman, j'ai eu à m'intéresser déjà à la condition des flics, ce que je ne pensais pas faire dans ma vie, et j'ai eu à le faire pour écrire ce personnage de flic, et un petit peu m'intéresser à l'histoire de la police. Et je crois s'intéresser, lire des choses sur l'histoire des répressions, c'est aussi une manière peut-être d'apprendre, de savoir pourquoi on en est là et où est-ce qu'on va. Et si on regarde des faits comme ça, hein. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a été créée, la police nationale française ? Elle a été créée en 1941 par le maréchal Pétain. Donc c'est Pétain qui a créé la police nationale. À la base, c'était des polices municipales. Donc déjà, on est sur un certain type d'ADN dans son histoire. La BAC, l'ancêtre de la BAC, c'était les brigades de répression nord-africaines. Donc c'était clairement une police qui était pensée pour être raciste. Pourquoi ? Parce qu'elle a été créée par un type qui était administrateur des colonies en Algérie. Donc c'est lui qui a pensé le truc, et il l'a pensé à partir de techniques qui ont été développées pendant la guerre d'Algérie, donc des techniques d'interpellation, d'intimidation, de torture, de violence. Donc ça, c'est ce qui a créé la BAC, par exemple. Et après, dans l'histoire beaucoup plus récente, parce qu'on peut dire, oui, bon, bah, ça c'est dans le passé et compagnie, dans l'histoire plus récente, il y a eu les attentats, donc en 2015. Au moment des attentats, le gouvernement a dit une phrase qu'il répète depuis une cinquantaine d'années, plus de bleus sur le terrain, ou plus de flics, machin bidule. Et pour une première fois depuis longtemps, ça correspondait avec un sentiment un peu généralisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a les flics qui avaient été applaudis dans la rue au moment des attentats, et d'un seul coup, il y a plein de gens qui se sont dit... Tiens, moi, j'ai envie de devenir flic. Ça avait de nouveau un sens. Donc, en fait, ce qui était parfait pour le gouvernement, c'est qu'à la fois, il y avait une promesse qui avait été faite de « on va en mettre plus », et il y avait, qui correspondait avec un pic de personnes qui voulaient s'engager. Donc ça, très bien. Et puis, les années passent, l'engouement s'éteint au fur et à mesure. Les personnes qui s'étaient engagées dans les forces de l'ordre se rendent compte que c'est pas exactement le métier, n'est pas celui qu'ils pensaient, notamment par rapport à la politique du chiffre, qu'on était plus dans un truc de faire du chiffre pour répondre à des attentes d'une hiérarchie plutôt qu'un maintien de l'ordre. Donc les personnes qui avaient postulé, il y en a plein qui s'en vont, il y a de moins en moins de gens qui postulent, sauf que les promesses du gouvernement restent les mêmes. Pour pouvoir pallier à ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont baisser le niveau d'entrée, donc il n'y a plus besoin d'avoir fait autant d'études pour devenir flic, donc pas avoir le même bagage émotionnel, de vécu, d'expérience pour rentrer. On va baisser le temps de formation des flics. On va passer, je crois, on était déjà pas à grand-chose, on était à 11 mois, comme ça. On est passé, je dis peut-être des bêtises, j'ai plus tous les chiffres, mais on est passé à 6 mois ou à 9 mois, je sais plus. Et on se retrouve du coup avec des personnes très jeunes qui se retrouvent sur le terrain avec très peu de formation et c'est là où ce que je me suis rendu compte dans mon travail de recherche, c'est que plein de témoignages de jeunes flics qui disaient « Moi, mon premier jour d'intervention, c'est le premier jour où j'ai vu un mort. » Parce qu'effectivement, on parle là de répression compagnie, les flics, c'est aussi les premiers à être sur les lieux lorsqu'il y a un suicide, par exemple. Il y a un suicide, on appelle les pompiers, mais il y a aussi la police qui est appelée. Donc, tu as 21 ans, 22 ans, tu te retrouves avec ton premier mort devant toi. Ça encore, c'est quand c'est chouette. Tu peux te retrouver aussi avec la mère qui a été tuée par le père qui est là et les mômes qui sont dans la chambre d'à côté. Et tu as 22 ans, tu n'as aucune formation, tu ne sais rien faire de ça et tu te retrouves à gérer ça. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il n'y a pas d'accompagnement ou peu d'accompagnement psychologique. On va te répondre, mais si les syndicats vont dire « mais si, il y a une cellule psychologique qui existe, machin ». Elle n'est quasiment pas utilisée parce que c'est très mal vu d'aller chez la psy, parce que c'est un corps viril, on reste dans une tradition virile de « non, moi pas de problème et je ne vais pas en parler ». Et donc on a des espèces de bombes à retardement qui déjà sur le terrain font qu'eux-mêmes dans leur vécu, dans leur vie, dans leur intimité, ils voient des horreurs tous les jours sans aucun accompagnement. Ils parlent très souvent d'un repli sur eux-mêmes, c'est-à-dire que une phrase que j'ai beaucoup entendue, c'est « on mange police, on boit police, on dort police ». Parce qu'ils se retrouvent au bout d'un moment à aller à la salle de sport entre flics, à faire les sorties le week-end entre flics. Donc il y a une espèce de huis clos qui se crée au fur et à mesure, de huis clos de mal-être, parce qu'il y a des pressions de la hiérarchie, il y a des chiffres qui sont demandés, parce qu'ils voient des violences en permanence et qu'ils sont là pour toutes les violences qu'est capable l'humain, et ça c'est une réalité. Et il y a ça, et puis comme tu dis, ils se retrouvent, pendant la crise des gilets jaunes, donc ces trucs-là qui sont des cocottes minutes prêtes à exploser, ils se retrouvent avec une tenue renforcée face à des manifestants, sans aucune formation de ça. Et alors là, on a un mélange totalement, qui est prêt à exploser, quoi. Ils étaient prêts à exploser, et d'un seul coup, ils se retrouvent face à une foule qu'ils ne savent pas contrôler. Donc ça, je crois que lire des trucs dans l'histoire des répressions et de comment est-ce qu'elles sont construites et dans l'histoire, il y a très longtemps et il n'y a pas si longtemps, ça peut donner des clés aussi de compréhension de ce qui se passe.
Nickel. Du coup, j'ai une dernière question.
Ouais, vas-y. Du coup, c'était juste pour rebondir sur tout ce que tu viens de dire. Il y a un super bouquin de Didier Fassin qui s'appelle « Pourquoi la BAC a des manières aussi humiliantes et répressives ?» À des manières aussi rudes et humiliantes. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça reprend un peu tout ce que tu viens de dire sur comment ils sont recrutés, comment ils sont formés ou pas formés, etc. etc. Du coup, si vous avez envie de vous pencher un peu sur la question, je vous le conseille. Et si vous avez la flemme de lire cet énorme bouquin, sur infokiosque.net, il y a un résumé d'une trentaine de pages sous forme de brochure qui est aussi hyper intéressant.
Nickel. J'ai une dernière question. Non, je suis désolé. Non, merci, c'est hyper intéressant. Non, mais oui. Non. J'avais vu un reportage aussi d'un gars qui s'est infiltré dans la police pour savoir comment est-ce qu'il avait. Déjà, en très peu de temps, il pouvait utiliser une arme. Et le nombre de formations et surtout le secret entre les keufs. S'il se passe une bavure, on ment, etc. Enfin bref. J'ai une dernière question pour aller droit au but. C'est quel. Là, ça va me faire. Quelle alliance y a-t-il entre quartier populaire et les groupes militants face à la répression?
Je trouve que ça ressemble à une question sociétale à laquelle, personnellement, je ne peux pas répondre. Très concrètement, pour nous, on ne peut pas parler d'une alliance, mais d'une. Je sais pas, d'un début de truc. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est que les milieux militants, on ne peut pas demander aux gens de s'intéresser à ce qu'on fait, c'est à nous d'aller vers eux. Après, il y a déjà des personnes qui ont des manières de s'organiser collectivement. Et nous, voilà, on passe par des assos, on essaye d'aller voir dans des quartiers des ados qui se prennent des contrôles d'identité tout le temps, d'essayer de leur proposer des formations GAV, de leur proposer un soutien juridique quand ils ont besoin des avocates, de payer les frais d'avocat et tout quoi. Je sais pas si on peut parler en termes d'alliance, je sais pas comment définir ce mot, mais voilà, il se passe ça en tout cas, à santé.
Pour le coup, dans le roman, justement, cette bande d'anarcho-autonomes, ils ont ce fantasme qui est un fantasme assez présent dans toute l'histoire de la gauche, que ce soit la gauche socialiste ou que ce soit les partis d'extrême gauche, ce fantasme de la révolution qui viendrait par les quartiers populaires. Et c'est un vieux fantasme qui existe avant même Mitterrand, j'imagine, et qu'on retrouve, je crois, encore aujourd'hui, qui est un fantasme de se dire, si tu viens de quartier populaire, forcément, tu partages nos convictions. Forcément, tu dois rejoindre nos forces vives. Et qui, je crois, n'est qu'un fantasme. C'est un fantasme qui est lié au fait de voir les quartiers populaires comme un truc monolithique. C'est un truc comme ça. Déjà, les quartiers populaires, c'est eux, c'est pas nous. En fait, c'est une manière, et c'est la manière en tout cas de ces personnages-là, c'est un militantisme blanc. Et c'est vraiment un militantisme blanc de considérer que quasiment une sorte d'infériorité, de féodalité. C'est-à-dire qu'ils doivent nous rejoindre parce que nous, on porte leurs paroles. Alors que je crois que déjà, il n'y a pas les quartiers populaires, c'est pas un truc comme ça, c'est pas un ensemble relié, uni et unique. Et en plus, je crois que les personnes vivant en quartier populaire, ils portent déjà leur propre voix. Et donc voilà, cette question-là, elle peut cacher aussi cette espèce de fantasme-là. Et qui notamment s'est retrouvé ensuite dans les Gilets jaunes, lorsque les Gilets jaunes disaient « Mais pourquoi est-ce que les quartiers populaires ne rejoignent pas et compagnie ?» Vous étiez là quand eux, ils faisaient des émeutes ? Vous étiez derrière eux ou vous étiez derrière votre poste de télé à dire « Tiens, ils sont encore en train de foutre le bordel ?» Je crois avoir la réponse. Mais donc voilà, moi c'est toujours le genre de vision qui m'apporte beaucoup de questions.
Et oui, ce truc que tu disais de « ils nous rejoignent pas » alors que les gens n'y sont pas allés quand eux avaient besoin dans certains quartiers. Il y a aussi un truc, c'est de les remercier de l'héritage qu'on a, parce que je pense que les manières de monter des barricades, de se masquer et de s'habiller en noir, c'est des choses que les gens ils ont vues dans ces images-là d'émeutes. Et en fait, tu vois, tu disais ce sentiment de supériorité, en fait c'est plutôt des héritiers qui devraient les regarder vers le haut, quoi, j'ai l'impression, aussi, sur des stratégies de déplacement, de lutte, etc.
Du coup, voilà, je remercie le collectif Cassis qui était avec nous aujourd'hui, qui ont pu parler du collectif et répondre à nos questions. Et je remercie aussi, du coup, Marin, pour ton roman, et puis d'être passé, c'était cool. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ouais, merci à vous.
Merci à tous, vous pouvez retrouver cette émission sur radiotilleul.org et surtout retrouver toutes les voix que vous avez entendues sur ce même site internet. Oh là, on se le dit ensemble. C'était Esteban avec toute l'équipe de Radio Tilleul, c'était Marin Fouquet et Le Cassis. Ciao ciao.